Père éternel, nous voulons te remercier encore une fois de nous avoir accueillis ici au camp de Genneval pour notre convention des APEB. Merci parce que depuis le début, tu as pris toutes choses entre tes mains. Merci pour la louange que nous avons vécue dans ta présence. Et merci Seigneur pour notre frère qui va nous apporter le message. Puisses-tu Seigneur continuer à bénir cette assemblée par ta paix, par ton amour et par ta sagesse. Aide aussi nos cœurs à être ouverts pour recevoir, Seigneur. Parce que nous sommes aussi venus ici pour recevoir. Merci, Seigneur. Saint notre frère de force, Saint notre frère de ta parole, Seigneur. Amen. Merci.
Merci beaucoup à ceux qui nous ont introduits dans l'adoration. Cette superbe présentation qui introduit très bien le sujet du jour. Et je me présente brièvement, donc Pascal, et je viens de Lille, en France. Et voilà, je connais quelques personnes ici que je suis très heureux de revoir, de saluer. Et voilà, je travaille en ministère étudiant parmi les étudiants à Lille, où j'ai l'occasion de pouvoir annoncer l'évangile à des étudiants qui viennent d'un petit peu partout. Et voilà, ça, brève présentation, marié, père heureux de 5 enfants. La vie est une belle aventure, vraiment. La vie, une belle aventure. Alors, on m'a demandé de répondre à cette question et c'est avec grand plaisir que je vais essayer d'y répondre. Alors, tout le monde se dit, de toute façon, la réponse sera oui, forcément. Avec Dieu, c'est une belle aventure. Alors, je vais commencer avec une première prédication où la réponse sera plutôt oui, c'est une aventure belle. Parce qu'en fait, quand on regarde nos vies, pour la plupart d'entre nous, la vie est une succession de saisons. Et certaines, il faut quand même le reconnaître, sont plus belles et plus faciles que d'autres qui sont parfois plus compliquées, voire même carrément difficiles. Dans la vie, c'est comme les saisons, le printemps laisse place à l'été, et puis l'été finit par se terminer. D'ailleurs, vendredi, nous serons en automne. Et on va ranger nos casquettes, lunettes, claquettes, et puis on va sortir nos gilets. Bonnet, kawé, et ne me faites pas croire au microclimat belge. Alors, la vie, une belle aventure, toujours, parce que l'été finit par se terminer. Et je suis sûr que même cet été, même si tu avais des vacances, parce que peut-être tu en as eu, je suis sûr que tu n'as pas réussi à faire tout ce que tu espérais faire cet été. À vous. La vie est une belle aventure. Si quand on parle d'aventure, on parle d'inconnu, on parle de défi, on parle de rencontre, on parle de doute, en particulier le doute de réussir, alors certainement la vie est une aventure. Ça oui. Certains parmi nous ont des aventures plus extraordinaires que d'autres, mais il n'empêche que la vie est une aventure. Si on prend en compte le défi de réussir. Est-ce une belle aventure pour autant? Une belle aventure tout le temps? Tu n'as pas pu vivre tout ce que tu rêvais cet été. Si tu es comme moi, tu es revenu d'ailleurs avec la moitié des livres que tu espérais lire n'ont pas été ouverts. C'est vrai? C'est pas grave, il y aura un prochain été. Le problème, c'est que les éditeurs vont en sortir d'autres l'année qui vient. Et en fait, l'année qui vient, ce sera pareil. Tu n'arriveras pas à faire tout ce que tu espérais faire. Et toute la vie va être comme ça. Elle va passer plus vite que le temps qu'il faudrait pour atteindre tous tes rêves. Ambiance. La vie, une belle aventure. Une aventure, ça c'est sûr. Belle, oui. Si tu acceptes de vivre la vie telle qu'elle est et de te focaliser sur l'essentiel. Zut, j'ai déjà dit ma conclusion. Bon, il reste quand même une petite part de suspense. C'est qu'on va voir comment est-ce qu'on va arriver à cette conclusion. Comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion en deux séances de 45 minutes ? Un peu de psychologie positive ? Un peu de développement personnel ? En fait, on va plutôt interroger un sage. Ça tombe bien, répondre aux questions qui concernent la vie quotidienne, c'est le sujet des livres de sagesse. Alors, les livres de sagesse dans la Bible, c'est les Proverbes, l'Ecclésiaste, Job, il y a aussi des psaumes de sagesse, certains citeront aussi Cantiques des Cantiques. Qu'est-ce qui caractérise ces écrits ? Ben dans l'Ancien Testament, il y a les livres de loi qui présentent Dieu, qui montrent ses exigences et qui définissent des normes. Il y a les livres prophétiques qui rappellent les normes de Dieu, qui nous proposent régulièrement un examen de conscience au vu de ce qui est à venir. Et entre les deux, il y a les livres de sagesse ou les livres poétiques qui nous parlent particulièrement parce que, je cite Alfred Kuhn, les livres historiques de la Bible sont centrés sur le passé, les livres prophétiques sont tournés vers l'avenir, mais les livres poétiques ou les livres de sagesse se concentrent sur le présent, sur ses problèmes, sur notre relation avec Dieu et nos semblables, sur le sens de la vie, de la souffrance, de l'amour. Et ils illuminent ce présent de la beauté, reflet des perfections divines. Les livres de sagesse sont là pour nous aider à vivre en conformité à la loi de Dieu, aux normes qui ont été définies par Dieu, et ce, en toutes circonstances. En toutes circonstances. C'est bien utile par les temps qui courent. En considérant l'expérience, le vécu, la réalité du monde, la société humaine, la complexité de la nature humaine, la complexité du monde dans lequel nous vivons. Dans les livres de sagesse, nous allons trouver des conseils pour savoir comment vivre la loi de Dieu dans toutes ces circonstances complexes. Déjà à l'époque, les circonstances étaient complexes. Encore aujourd'hui, elles le sont. Quelle complexité, n'est-ce pas ? S'il fallait simplement regarder l'année passée dans le rétroviseur, est-ce que tu as vécu quelque chose de plus complexe que prévu ? Allez, si on regarde les trois dernières années dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a eu des choses plus complexes que ce que tu pensais ? Est-ce que certaines choses sont arrivées, tu ne pensais même pas que c'était possible ? Et quand tu regardes l'année prochaine, elle amènera aussi son lot de complexité. D'ailleurs, là, c'est juste la rentrée. Et honnêtement, si chaque année amène son lot de complexité, cette année, j'ai l'impression que les complexités de l'année prochaine sont déjà là. Les auteurs de sagesse sont des observateurs. Ils regardent la vie. Ils regardent ce que nous vivons, nous les humains, et ils font des constats. C'est pour ça qu'ils disent souvent « j'ai vu, j'ai observé, voilà ce qui se fait sous le soleil ». Ils regardent, ils observent et ils donnent des conseils pour nous dire comment bien vivre cette vie ici-bas, maintenant, là, tout de suite. Pas du passé, pas de l'avenir, aujourd'hui, voilà ce qui les préoccupe. La vie est-elle une belle aventure ? En fait, c'est la question à laquelle ils répondent. Et c'est pour ça que j'ai choisi de survoler un livre de sagesse pour répondre à cette question. Et ce livre, ce sera le livre de l'Ecclésiaste. Idéalement, avant de lire un extrait de ce livre, il faudra encore prendre du temps pour expliquer la place de l'Ecclésiaste dans les livres de sagesse. Et puis je pourrais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de répondre avec précisément le livre de l'Ecclésiaste. Mais je sais aussi que je risque de vous frustrer à faire une introduction trop longue. Alors, comme des enfants qui aimeraient faire de la musique et à qui on dit qu'il va d'abord falloir faire quelques années de solfège. Je vais vous dire que je vais arrêter un peu le solfège ici. On va commencer un peu la musique Et puis on fera de nouveau du solfège au fur et à mesure, ok ? On va commencer la musique, on va prendre le livre. Mais le solfège, ça vaut le coup, parce que ça nous aide à bien écouter la mélodie du livre. Alors on va refaire de temps en temps du solfège. Mais pour pas trop vous frustrer quand même, Ecclésiaste chapitre 1. La vie, une belle aventure ? Je vais lire Ecclésiaste chapitre 1, les versets 1 à 11. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Une génération s'en va, une génération vient et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera. Allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant, tournant, ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où ils coulent, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise « Vois ceci, c'est nouveau !» Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé, et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Bienvenue en automne. Et après viendra l'hiver, après le printemps, après l'été, et puis de nouveau l'automne. Et ça continuera comme ça. Que de cycles. Le temps passe, et nous allons un jour disparaître, et le temps continuera de passer. À l'échelle cosmique, notre vie n'est rien. Le temps finira par tous nous faire disparaître. Vous, moi, même la reine. Et tout ce qui nous tient à cœur, tout finira par disparaître. Comme je disais tout à l'heure, avec ma femme, nous avons 5 enfants. Et pour donner une petite leçon de vie, un mercredi après-midi, j'ai décidé de partir visiter une déchetterie. Et j'ai demandé aux enfants de me dire tout ce dont ils rêvaient. Et je leur ai dit, ah ben tu vois, ce dont tu rêves, alors là, ça c'est du bois, ce sera dans la 4. Alors ça, c'est du métal, ce sera dans la benne 8. Ce sera... En fait, tout ce dont tu rêves un jour sera là, trié dans des bennes. Le temps passe. Et nous aussi, nous partirons. Pourtant, dans Genèse 1, quand on ouvre la première page de la Bible, il y avait... Un jour, il y avait une nuit, et chaque jour amenait son lot de nouveautés. Il y avait quelque chose d'excitant. Jour 1, la lumière. Jour 2, séparation des eaux d'en haut, séparation des eaux d'en bas. Jour 3, terre-mer. Jour 4, les luminaires. Jour 5, les oiseaux, les poissons. Jour 6, les mammifères, dont le fameux bipède que nous représentons aujourd'hui. C'était merveilleux. Et à partir... De Genèse 2, on pensait qu'on allait juste passer notre vie sur terre à se multiplier, à répandre l'image de Dieu sur la surface de la terre. C'était ça notre mission. Nous sommes l'image de Dieu, son MMS, son image morale, mentale, sociale. Et c'est cette image que nous devions répandre sur la terre. Mais quelle mission merveilleuse ! Puis vient Genèse 3. Et le péché... a ouvert la porte à la vanité. Dit par la bouche de l'Ecclésiaste, ça donnerait ça, Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29, « Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de complications. » Oh là là, il y en a beaucoup. Et maintenant ? Maintenant, jour, nuit, et chaque jour amène son lot de frustration, confusion, pauvreté, maladie, folie, haine, vieillissement. Oh, que l'Ecclésiaste décrit bien le vieillissement. De mort, recommencement sans fin, les cycles de la vie, les cycles de la vie dans la nature, dans l'histoire, nous mènent à l'insatisfaction. L'homme ne pourra jamais sortir de ces cycles, même en faisant un maximum d'efforts. Bienvenue en automne. À lire ce texte, je ne sais pas vous, mais moi, admettons que ce soit un copain qui me parle, j'ai envie de lui dire, mais ressaisis-toi, qu'est-ce qui t'arrive ? On peut aussi regarder la vie différemment, tout n'est pas comme ça. La vie est une belle aventure. Il y a des choses qui changent. Regarde la médecine, les droits de l'homme, l'éducation, la scolarité, l'écologie. Et l'Ecclésiaste répondrait probablement en démontant encore un peu plus le mythe du progrès. La science nous permet de vivre des belles choses, des choses remarquables, certes, en bien ou en mal. Mais rien ne nous permettra de sortir de ces cycles de guerre, de paix. Vous avez cru, vous, que la guerre ne viendrait plus en Europe ? Rien ne nous permettra de sortir de ces cycles de naissance, de mort. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste. La vie est-elle une belle aventure ? Stop, je vais m'arrêter là, mon but n'est pas de vous déprimer aujourd'hui. On va se souvenir des cours de solfège de tout à l'heure, de l'introduction. Juste pour dire que l'auteur de l'Ecclésiaste est un sage, ce n'est pas un dépressif. Le fait de le savoir change toute la mélodie du livre. Sa conclusion n'est pas du tout vanité des vanités, c'est l'introduction. Mais ce n'est pas sa conclusion. Certes, ça n'empêche pas que le livre est parfois difficile à comprendre. L'année dernière, j'ai l'habitude de présenter la Bible à des étudiants qui ne la connaissent pas du tout, et j'ai eu la joie de présenter la Bible à 3 étudiants qui n'avaient aucune connaissance de la Bible. Et puisque je suis un passionné de l'Ecclésiaste, je me suis dit, lisez l'Ecclésiaste pour la semaine prochaine. Vous verrez, c'est un livre merveilleux. Ce n'est pas ce qu'ils ont cru. J'étais un peu désolé. Ils ont vu le côté sombre, ils ont vu la vanité et l'insatisfaction, et ils n'ont pas vu la beauté. Alors, je ne ferai plus lire le livre de l'Ecclésiaste sans expliquer d'abord. Même si Dieu, bien sûr, peut s'en servir comme ça, en direct. Mais même un chrétien qui lit ce livre pourrait se poser quelques questions. Que fait ce livre, quand même, qui a l'air parfois pessimiste dans la Bible ? Et puis ces exhortations qui sont là parfois, des exhortations à juste profiter de la vie, à profiter du bonheur, kiff la life, carpe diem. Est-ce que c'est biblique ? Des fois on a l'impression que c'est ce qui est écrit. Sans parler de tous les « mieux vaut », ça vous dit quelque chose ? Mieux vaut aller à un enterrement qu'à un mariage. Mieux vaut le chagrin que le rire. Je sais pas, ça se discute, non ? Ce livre reste quand même difficile à comprendre parfois. En tout cas pour ceux qui le découvrent. J'ai eu le bonheur de lire 2 commentaires que je recommande, celui de Sylvain Romerovski et celui de Woody Lewis. Je les ai lus avec grand plaisir. Il n'empêche que même après la lecture de ces 2 commentaires, certaines choses m'échappent encore. Mais puisqu'on n'a que 2 rencontres ensemble, je ne vais pas partir dans tous les détails du livre, mais juste regarder les points essentiels, parce que j'aimerais répondre à cette question. La vie, une belle aventure, en survolant toute la pensée de l'Ecclésiaste. Alors dans l'Ecclésiaste, c'est facile, si on ne veut pas se préoccuper des détails et qu'on cherche juste à voir l'idée centrale du livre, il suffit de regarder les répétitions. Parce que vous l'avez remarqué dans le texte que je viens de lire, les répétitions, l'Ecclésiaste, on dirait que c'est son truc. Quand il veut appuyer une pensée, il n'hésite pas à mettre le paquet. Alors, vous l'aurez remarqué, si je relis juste le verset 2 par exemple, ou 2 et 3, Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Y aurait-il un mot qu'il répète ? Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil ? Alors oui, rien que dans ces deux versets, vous avez des notions que l'Ecclésiaste va répéter 30 fois dans le livre. 30 fois la notion de vanité, 30 fois sous le soleil. C'est les idées qui reviennent le plus, et on peut dire que c'est la toile de fond du livre, l'idée de la vanité sous le soleil. C'est la toile de fond. Mais vous le savez, il n'y a pas que des répétitions en ce qui concerne la vanité et sous le soleil. Il y a d'autres répétitions. C'est un livre de sagesse, il parle de la crainte de Dieu, ça revient 7 fois. Et puis il parle de quelque chose qui ressemble à la joie simple, à profiter de la vie, manger, boire, ça revient 7 fois aussi. Donc s'il fallait résumer l'Ecclésiaste, juste en mentionnant les répétitions, ce qui revient tout le temps, je dirais que la crainte de Dieu et la jouissance de la vie sont comme des refrains sages et joyeux qui viennent mettre de la couleur sur la toile de fond de la vanité sous le soleil. La crainte de Dieu et la jouissance de la vie sont comme des refrains sages et joyeux qui viennent mettre de la couleur sur la toile de fond de la vanité sous le soleil. Dans cette première prédication, je vais surtout poser la toile de fond. Sous le soleil, la vanité. Hier soir, j'ai discuté un petit peu avec ma femme de ce que je comptais dire aujourd'hui. Et en discutant, on se disait, on espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui vont écouter que la première prédication. Les couples qui se sont mis d'accord, ils se disent, ok, tu écoutes la première et moi j'écoute la deuxième. Je vous encourage à parler ensemble ce soir, parce que si vous avez eu que la première, vous avez eu que la toile de fond. Mais pour bien entendre la musique du livre, c'est important de bien voir la toile de fond. Faisons de nouveau un peu de solfège. Désolé, je vous avais dit que ça va continuer. Pour bien comprendre la toile de fond, il faut savoir ce que dit l'Ecclésiaste quand il parle de vanité des vanités. On pourrait penser que quand l'Ecclésiaste parle de vanité, il parle de choses qui sont sans signification, futiles, inutiles, vides. C'est encore plus que ça. Si on veut une idée claire, il faudrait lire tous les textes qui en parlent, ou peut-être s'intéresser à une traduction littérale qui nous dit que la vanité, c'est la buée, la vapeur, le souffle, le brouillard. On pourrait donc dire que la vanité, pour l'Ecclésiaste, c'est vouloir toucher quelque chose de solide, et dès qu'on s'en approche, on aperçoit que c'est un mirage, que ça file entre nos doigts comme du brouillard. C'est ça le sentiment de la vanité, ce mirage qui est là. Et il parle de cette vie facile qui est en fait insaisissable. Dans nos rêves, la vie facile est merveilleuse, tellement belle. Mais dès qu'on l'observe de plus près, la beauté disparaît. C'est un mirage, elle n'existe pas cette vie-là. Vanité des vanités, que c'est pénible, énigmatique, éphémère. Et cette notion de pénibilité ne fait que s'accentuer avec la poursuite du vent qui intensifie encore cette déception, cette frustration de cette vie facile qui est impossible à atteindre. Vanité des vanités. En hébreu, c'est le superlatif absolu. Que tu aies la foi ou non, parce que l'Ecclésiaste a la foi, que tu aies la foi ou non, ça ne change rien à la vanité de la vie sous le soleil. Quand on lit « sous le soleil », encore un peu de solfège, il ne faut pas s'imaginer les vacances, la plage. Quand on lit « sous le soleil », il faut simplement s'imaginer cette vie-là, celle que nous sommes en train de vivre, là, maintenant. C'est le sujet d'étude des livres de sagesse. Pour le chrétien comme pour le non-chrétien. En français courant, c'est d'ailleurs traduit « la vie ici-bas », sans prendre en compte ce qui vient après la mort. Lorsqu'on lit les descriptions de la vie sous le soleil pour l'Ecclésiaste, on observe qu'il souligne la pénibilité, la vanité, et que le même sort nous atteindra tous pour ce qui concerne cette vie ici-bas, sous le soleil. Alors, la vie, une belle aventure? Selon l'Ecclésiaste, sous le soleil, c'est la vanité. C'est-à-dire que tout ce qu'on va entreprendre, d'après lui, travail, connaissance, relations, argent, quête de bonheur et même sagesse, rien ne changera notre condition humaine et sa vanité sous le soleil. Et même la sagesse, vous m'avez bien entendu, c'est un livre de sagesse, mais il va dire que même la sagesse ne pourra pas nous extraire à notre condition humaine sous le soleil. Vanité des vanités. Alors certes, il décrit la vie comme une aventure. C'était un aventurier. Il a essayé plein de choses, l'Ecclésiaste. C'est sûr, il a tout essayé. Vous connaissez l'Ecclésiaste. Il a cherché l'épanouissement total, le bonheur absolu. Et il l'a cherché dans le travail, dans les relations, dans l'amour, dans les grands projets, même dans la folie. Sa conclusion, rien ne nous comble sous le soleil. Rappelons-nous de l'introduction. L'Ecclésiaste n'est pas un dépressif. Oui, son enseignement pique. Il pique un peu, il pique même beaucoup. Mais si vous trouvez qu'il pique beaucoup, soyez rassurés, c'est son but. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Regardez, Ecclésiaste, chapitre 12, si je lis le verset 11, il dit « Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. » C'est le don d'un seul pasteur. Oui, ça pique, mais c'est pour un but pastoral. Ah, bon, bah, ça va alors. Ça pique pas juste pour piquer. Non, l'Ecclésiaste essaye de déconstruire des rêves qui seraient faux pour nous faire rêver juste. Mais avant de nous faire rêver juste, il nous montre qu'il faut arrêter de rêver faux. La vie, une belle aventure? Non, si tes rêves sont mal placés. Oui, si tu rêves juste. Si on prenait le temps de lire tout l'Ecclésiaste ensemble, on verrait qu'à mi-parcours, au chapitre 6, il y a comme un tournant dans le livre, comme une conclusion de mi-parcours que nous allons regarder ensemble. Cette conclusion de mi-parcours montre la tension entre les faux rêves qu'on pourrait avoir et les vrais rêves qu'on devrait avoir. Si vous voulez, il y a 12 chapitres dans l'Ecclésiaste. C'est 6 versets qui sont là au plein milieu. Il y a autant de versets avant qu'après. Intéressant. Hein ? C'est 6 versets qui sont là au plein milieu. Les 3 premiers font une conclusion en ce qui concerne les mauvais rêves que nous pourrions avoir sur cette terre, et les 3 d'après sont comme une introduction aux bons rêves que nous devrions avoir pour que la vie soit une belle aventure. Ce sera aussi un peu la conclusion de ma première prédication et l'introduction à ma seconde qui sera tout à l'heure. Lisons Ecclésiaste chapitre 6, les versets 7 à 12. Et vous l'aurez compris, je vais commencer par 7 à 9, qui est la conclusion de la première partie, et puis je lirai dans la foulée 10 à 12. Versets 7 à 9. « Toute la peine de l'homme est pour sa bouche, et cependant son gosier n'est pas rempli. Que reste-t-il au sage de plus qu'à l'insensé? Et quel avantage à l'homme humble qui sait se conduire devant les vivants? Mieux vaut voir de ses yeux que de laisser aller son imagination. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. » Si nous cherchons le paradis sur terre, nos appétits ne seront jamais satisfaits. Rien, absolument rien, même la sagesse, rien ne peut nous extraire à la vanité de la vie sous le soleil. On travaille pour manger, on mange pour travailler, belle aventure. Mais le livre de l'Ecclésiaste ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième partie qui est introduite, versets 10 à 12. Je lis. « Ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait ce qu'est l'homme. Il ne peut contester avec plus puissant que lui. Quand il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de vanité. Qu'en reste-t-il ? Pardon. Si, qu'en reste-t-il à l'homme ? Qui donc sait ce qui est bon pour l'homme pendant la vie, pendant le nombre des jours de sa vaine existence qu'il mène comme une ombre ? Et qui peut annoncer à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil ? Certes, qui est l'homme ? Même la plus grande sagesse ne nous permet pas de sortir de notre condition humaine pécheresse, limitée, de la vanité sous le soleil. Certes, mais je n'ai pas besoin de contester avec plus puissant que moi. Je n'ai pas besoin de contester avec Dieu pour refuser ma condition humaine et pour vouloir la changer en créant un paradis terrestre. Je peux accepter que moi-même, bien souvent, je ne sais pas ce qui est bon. Après tout, pourquoi vouloir une autre vie ? Pourquoi vouloir négocier avec Dieu une autre condition humaine ? Si la vraie vie ressemble à celle que nous sommes en train de vivre, est-ce qu'il ne voudrait pas mieux l'accepter ? En sachant que Dieu sait mieux ? Et peut-être se tourner alors vers Dieu et lui poser à lui la question, puisqu'il est le maître du passé, du présent et de l'avenir, lui poser à lui la question pour savoir comment bien la vivre, cette vie. En fait, la condition humaine, je ne peux pas la changer. Cette aventure, ici-bas, sous le soleil, ne sera pas parfaite. Mais je peux demander à Dieu, lui qui sait tout, ce qu'il est bon de vivre ici-bas, au milieu de ce brouillard. Combien de fois, avec ma femme, on est en train de discuter et on ne sait pas ce qui est le mieux, dans plein de sujets différents, ce qui est le plus juste, ce qui est le plus sage. On a souvent l'impression que quel que soit le sujet, l'éducation des enfants, les relations de voisinage, le travail, même l'Église, il n'y a pas de bonne décision. Il n'y a pas une décision qui fera l'unanimité. On a l'impression que chaque décision qu'on va prendre, il y a un côté qui est bon, mais en même temps, pof, il y a un espèce d'arrière-goût, c'est pas parfait, quoi. Et on ne sait pas ce qui est juste, et on ne sait pas ce qui est sage. Et on n'a pas envie de prendre une décision quand on sait qu'elle n'est pas parfaite. Même des fois, on a envie de laisser courir, parce qu'on ne sait pas ce qui est juste. J'imagine que tous ceux qui ont des enfants savent très bien de quoi je parle. On ne saura jamais lequel a commencé. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On les laisse se tabasser ? Ou on prend une décision en sachant qu'on ne sait pas ? Bien sûr, ma vie est comme ça et ta vie l'est aussi parce qu'on a la même condition humaine. On est comme ça par nature. Notre condition humaine est touchée par le péché et on vit dans un monde touché par le péché. Pourtant, oui, la vie est une belle aventure. Même si la sagesse ne nous permet pas de nous extraire à notre condition humaine, même si la sagesse ne nous permet pas de sortir du brouillard pour être là à prendre que des décisions qui sont parfaites, mais la sagesse d'en haut, la crainte de Dieu, va nous permettre de naviguer dans le brouillard. Parce que Dieu peut être, veut être avec nous dans le brouillard. Il a même choisi de descendre dans ce brouillard pour que nous ayons la vie. Et c'est pour ça que la vie est une belle aventure. Mais ça, ce sera la deuxième prédication. Pour l'heure, je vais m'arrêter là et j'aimerais simplement prier déjà pour remercier Dieu du fait qu'il nous parle vrai, qu'il ne nous demande pas d'avoir des attentes de cette vie terrestre qui serait fausse. Je vais prier. Oui, notre Dieu, on te remercie pour ces paroles de sagesse qui sont là dans ta parole. Et on te remercie parce que ça parle vrai et ça correspond à nos vies. On voit bien que ce n'est pas toujours facile, que bien souvent il y a des décisions qu'on ne sait pas prendre et qu'on est frustré et qu'on voit que cette vraie vie est insaisissable, qu'on rêve d'un autre bonheur. Mais merci parce que c'est toi qui as mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. C'est toi qui as mis dans nos cœurs ce désir d'un paradis, d'un monde sans péché. Et merci parce que grâce à toi, grâce à l'œuvre du Christ, un jour nous serons dans ta présence, comme ça a été dit tout à l'heure, nous te verrons face à face et nous jouirons pleinement d'une vie sans péché, dans un monde sans péché. En attendant, je te prie Seigneur, que tu nous donnes de ne pas vivre dans le déni, de ne pas nous imaginer une vie qui n'est pas celle que nous vivons, mais d'accepter cette condition humaine, même si elle est imparfaite. Et au lieu de nous rebeller, au lieu de crier à toi pour dire qu'on veut une autre vie, de l'accepter en reconnaissant ta souveraineté, en reconnaissant que tu sais mieux, en reconnaissant que même lorsqu'on ne comprend pas, tu es bon, et en te faisant confiance, en continuant à te faire confiance, et en criant à toi, pour que tu sois celui qui vienne nous guider dans ce brouillard de nos vies, de manière à ce que cette vie soit vraiment une belle aventure à ta gloire. Amen.